Messieurs, bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Et dimanche dernier, nous avons vu ensemble que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de l'impossible. Car rien n'est impossible avec lui. Il suffit de lui demander par la prière, dans la foi, et lui, il nous opère des miracles en réponse. Nous avons un Dieu qui peut tout et rien n'est impossible avec lui. Ce matin, nous allons voir ensemble ces deux versets dans Actes des Apôtres, chapitre 9, les versets 15 et 16. Actes, chapitre 9, les versets 15 et 16. Le Seigneur dit à Ananias, « Va, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Parole du Seigneur. Le titre de notre prédication ce matin, c'est « L'homme, un outil indispensable pour la propagation de l'Évangile. » L'homme, un outil indispensable pour la propagation de l'Évangile. Dieu a choisi des hommes dotés du Saint-Esprit pour propager l'Évangile à travers le monde. C'est ainsi que Paul était mis à part par le Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le chapitre 9 des Actes des Apôtres a démontré que nous avons tous un passé et un présent. Ce que nous étions autrefois et ce que nous sommes aujourd'hui. Nous oublions souvent notre passé. Comment nous étions? Qu'est-ce que nous avons l'habitude de faire? Où est-ce que nous nous étions trouvés? Nous oublions. Nous oublions qu'autrefois que nous étions errants comme des brebis perdues. Autrefois, nous étions ténèbres. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Autrefois, nous étions éloignés de Dieu, sans espérance, sans droit de cité. Nous oublions que dans les bourbiers de péché où nous étions, c'est grâce au sang versé de Jésus qui nous a permis d'être là ce matin pour l'adorer en esprit et en vérité. Maintenant, nous sommes lumière. Nous sommes vivants. Nous avons la vie éternelle. Et nous devons marcher comme des enfants de lumière. Marcher comme des enfants de lumière. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, Paul dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et c'est ce qui nous est arrivé le jour même où nous avons accepté Jésus dans nos vies. Nous avons ces changements depuis lors. Nous avons une vie transformée par la grâce de Dieu et par le renouvellement du Saint-Esprit. Paul l'a dit à l'église de Rome dans Romains chapitre 12 et verset 2. Nous sommes transformés par le renouvellement du Saint-Esprit. Nous avons été appelés avant la fondation du monde à être saints et irréprochables devant Dieu. Nous avons été appelés pour une mission. Nous ne sommes pas là ce matin sans vision. Nous avons été choisis pour une mission. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19, Jésus s'est présenté devant ses disciples. Il dit, « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Dans le verset 20, il dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous sommes appelés ce matin, nous sommes choisis ce matin pour dire au monde entier qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel ni sur la terre aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, Jésus-Christ, homme. Selon Actes chapitre 4, verset 12. Jésus dit à ses disciples, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Nous sommes des envoyés de Dieu pour annoncer sa bonne nouvelle. Et Jésus voulait dire par là que nous ne sommes pas des missionnaires statiques. Nous ne sommes pas des chrétiens du dimanche seulement, nous sommes appelés pour aller dans le monde et prêcher sa bonne nouvelle, faire des disciples. La grande commission nous est confiée pour aller chercher les âmes perdues. Combien de fois nous sommes partis pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ? L'église locale n'a plus ce programme partir pour évangéliser les païens. Partir pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans l'église locale dont nous sommes membres, avons-nous bien rempli notre ministère? Par notre persévérance, dans les chants, dans les études, dans la musique, dans la prière et dans l'adoration, avons-nous prouvé que nous sommes appelés, mis à part, pour le service de Dieu? Nous demandons souvent à Dieu de nous donner des bénédictions périssables. Mais vous savez que les âmes perdues ont plus de valeur pour Dieu que ce que nous demandons. Est-ce que nous prions pour ceux qui sont perdus? Jésus était venu pour. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et nous avons aussi ce matin cette mission pour chercher les âmes perdues. Avons-nous prouvé que nous sommes appelés, mis à part pour son service? Pourtant, Dieu donne à chacun de nous un don spirituel pour mettre à son service et pour édifier ses saints. Chacun de nous ce matin dans cette assemblée a un don spirituel. Nous avons chacun de nous un don. Et ce don doit être développé pour le mettre au service de Dieu, pour édifier son peuple. Nous avons tous une histoire, un témoignage édifiant de notre vie avant notre conversion. Comment avons-nous accepté Christ comme Seigneur et Sauveur quand nous étions si rebelles, inaccessibles et sourds à la parole de Dieu? Est-ce que nous témoignons comment nous avons accepté Christ? Qu'est-ce qui nous avait frappé de laisser ce monde derrière pour marcher vers le salut? Car la grâce de Dieu est la source de salut pour quiconque croit. Nous avons tous cette histoire. Aujourd'hui, Dieu nous a choisis comme des instruments pour prêcher sa parole, pour insister en toute occasion favorable ou non, et pour exhorter avec douceur et en éduquant ceux qui se conduisent bien selon la parole de Dieu. Non seulement nous avons un passé, mais nous avons un présent. Est-ce que tout ce que nous avons accompli était pour la gloire de Dieu? Il est à remarquer que Paul était choisi dès les entrailles de sa maman, avant sa naissance. Selon Galates chapitre 1, versets 13 à 24. C'est comme nous qui avons été choisis depuis avant la fondation du monde. Paul était choisi depuis avant sa naissance pour être au service de Dieu. Le nom de Saul a changé en Paul pour une mission spéciale. Comme nous étions païens et nous sommes devenus chrétiens pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas nés chrétiens. Nous sommes devenus chrétiens, puisque avant, on ne citait pas ces noms. C'était jusqu'à Antioche pour la première fois que le nom de chrétien avait été cité. Comme Abraham avait changé en Abraham pour devenir père d'une multitude de nations, en lui, toutes les familles de la terre seront bénies. Pierre, un pêcheur poisson, était devenu un pêcheur d'hommes. Sa première prédication avait sauvé 3 000 âmes. Quand Dieu nous a choisis, il nous a changés. Nous ne sommes plus le même ce que nous étions hier par rapport à aujourd'hui, puisque nous sommes au service de Dieu. Le changement de Saul, persécuteur et destructeur d'église, en Paul, fondateur et bâtisseur d'église, est un bon exemple à suivre dans le travail de Dieu. savoir ce que nous étions hier et qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Saul était chargé par le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était le plus grand tribunal des Juifs. Il était chargé de persécuter à mort les disciples du Seigneur. Selon les rapports des portes ouvertes, qui a l'habitude de venir ici, l'Église continue à subir des persécutions mortelles à travers le monde parce que les hommes ne veulent pas de Dieu. Tout ce que Dieu a créé sont là, font la gloire de Dieu. Même les vents, la mer, mais les hommes, non. Nous sommes rebelles à la parole de Dieu. L'Église est contrainte de se réunir dans la clandestinité, dans des forêts, sur des arbres, dans beaucoup d'endroits dans le monde. Regardons notre confort ce matin, mes frères et sœurs. Regardons notre confort. Dans un beau temple où nous pouvons nous réunir en toute liberté. Ici, nous pouvons nous réunir en toute liberté. Et chaque fois, nous sommes entrés dans ce temple pour louer Dieu, nous devrions dire merci Seigneur avec les mains pures. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous le disons? Chaque fois, nous sommes ici en toute liberté, dans un local confortable que Dieu nous a donné. Est-ce que nous disons merci Seigneur? Est-ce que nous sommes reconnaissants pour ce local que Dieu nous a donné? Par rapport aux autres, une fois que porte ouverte était ici, il dit qu'il y a des croyants qui sont réunis dans un cimetière pour adorer Dieu. Pourquoi cimetière? Parce que tout le monde a peur de ce qui se passe là. Ils sont réunis dans un endroit où personne ne veut venir pour adorer Dieu. En France, et ici nous sommes libres. Mais avec cette liberté, regardez devant nous. Les chaises sont vides parce que les hommes ne veulent pas de Dieu. Sur la route de Damas, Saul devenu Paul avait fait une expérience significative avec le Seigneur dans sa vie. Et c'est là sa conversion spectaculaire va être produite. Saul fut frappé par une lumière venant d'en haut. Il tomba par terre. Et personne ne peut résister à la volonté de Dieu, mes frères et sœurs. Personne. Quand il décide, c'est oui ou amen. Jonas, à Ninive, en avait fait l'expérience. Il ne voulait pas partir pour annoncer la bonne nouvelle à ce peuple qui est mort. Et nous savons ce que l'Éternel a fait. Un poisson l'a avalé, et puis il se voit à Ninive pour prêcher la parole de Dieu. Le Dieu qui avait fait ça pour Jonas peut le faire aujourd'hui pour chacun de nous. Nous ne voulons pas aller, Dieu nous peut nous diriger là où il veut pour annoncer sa parole. Il peut le faire encore aujourd'hui, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il suffit de l'obéir. C'est notre mission d'annoncer la parole de Dieu. Une voix disait à Paul, devenu serviteur de Dieu, a persécuté l'Église. La voix dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répond, « Qui es-tu, Seigneur ?» La réponse est immédiate, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Que veux-tu que je fasse? C'est ce qui est écrit là. Hein? Que veux-tu que je fasse? Nous savons tous ce que nous devons faire. C'est aller annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Est-ce que nous l'avons fait chez nous, dans nos voisinages, dans la rue, dans notre collège, dans notre université, dans notre travail, est-ce que nous l'avons fait? Nous avons pour mission d'annoncer ce qu'est Jésus, ce qu'il peut faire, d'annoncer sa mort et sa résurrection, d'annoncer que c'est lui qui sauve, c'est lui qui console, c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre. Nous avons vu hier la manifestation anglaise pour un homme. Est-ce que c'est comme ça pour Jésus? Que faut-il que je fasse, Seigneur? Saul était resté aveugle pendant 3 jours sans manger et sans boire. On ne joue pas avec la volonté de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. La façon dont nous voyons n'est pas la façon que Dieu voit. Nous avons notre limite de savoir quand et comment Dieu va agir. Parce qu'il est souverain. Il fait, il agit quand il veut et comme il veut. La mission de Paul n'était pas facile. Il a connu beaucoup de tribulations pour la cause de l'Évangile. Il devait aller de ville en ville à Jérusalem pour annoncer cette bonne nouvelle. Un jour, le Saint-Esprit l'avertit que des liens et des tourments l'attendent à Jérusalem. À la place de Paul, après avoir eu cette nouvelle de l'Esprit, nous aurions décidé de rebrousser chemin. Ah, je ne vais pas mourir pour n'importe quoi, hein, pour n'importe qui. Voici la réponse de Paul dans Actes chapitre 20, le verset 24. Voici sa réponse. Paul dit, « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que nous avons donné comme priorité à notre vie? Paul ne faisait aucun cas de sa vie. Il suffit qu'il fasse le travail que Dieu lui avait confié. Il n'est pas retourné. Il continue. Paul était persécuté, battu et emprisonné. Aucun de ses trois voyages missionnaires n'était facile. Il souffrait. Malgré ses souffrances, l'Évangile faisait son chemin dans le progrès. Et si nous sommes là ce matin, c'est grâce à l'Évangile qui était prêché par ces apôtres audacieux. Et nous sommes là aujourd'hui, nous bénéficions de cet Évangile de grâce. Nous bénéficions de ces bénédictions de Dieu à travers l'Évangile. Frères, il n'y a pas de mission ni de ministère sans souffrance. Ça n'existe pas. Jésus même l'avait dit. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. C'est pas facile. Dieu avait choisi Paul pour qu'il apporte sa grâce à tous les hommes. Et nous sommes choisis ce matin pour apporter la grâce de Dieu à tous les hommes, de loin comme de près. C'est notre mission. L'apôtre des nations et des païens était connu pour sa bravoure et pour son audace dans la prédication de l'Évangile. Paul demande que la parole de Dieu soit prêchée avec autorité. Parce que la parole, c'est une autorité. Voici ce qu'il avait déclaré dans une conférence à Jérusalem. Dans Actes chapitre 15, dans le verset 12, Actes chapitre 15, verset 11 et verset 12. Il dit, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que, avait dit les païens. Et comme ils n'étaient pas les amis de Paul, ils s'étonnent. Toute l'assemblée garda le silence. Et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Vous savez, le plus grand miracle, c'est notre salut. Comment nous sommes sauvés? Chose dont nous n'avons pas le mérite. Nous ne sommes pas mérités d'être sauvés. Nous sommes des ennemis de Dieu. Nous étions éloignés de Dieu, mais nous sommes sauvés par grâce. Parce que cette source de salut est pour quiconque croit en Jésus-Christ, en sa mort et en sa résurrection. Paul dit à l'église d'Éphèse dans Éphésiens 2, verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. » C'est le don de Dieu. Il n'y a pas moyen ce matin de nous battre en l'estomac pour savoir c'est parce que nous n'avons pas péché, c'est parce que nous avons fait quoi que ce soit. Non, dans le verset 9, il dit, ce n'est point par les œuvres. Pourquoi? Afin que personne ne se glorifie. Le salut de Dieu, c'est par la grâce, par le moyen de la foi qu'on l'obtient. Donc ce matin, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Paul écrivait au jeune pasteur Timothée. Timothée était jeune lorsqu'il s'est engagé dans le travail de Dieu. Pour lui dire sa reconnaissance envers Dieu, pour ce que Dieu a fait pour lui, parce qu'il n'avait pas mérité de tout ce que Dieu avait fait pour lui. Dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 12 à 15, il dit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Verset 14, « Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. » C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Paul n'a pas oublié qu'il était seul persécuteur d'église, comme nous ce matin. Paul n'a pas oublié qui il était, comment il persécutait les enfants de Dieu. Il n'a pas oublié. Mais ce qu'il est aujourd'hui, il rend grâce à Dieu pour, parce qu'il n'en avait pas le mérite. Est-ce que c'est comme ça pour nous ce matin? Notre fierté, notre reconnaissance à Dieu pour ce que nous sommes, pour notre salut. Il exhorte à son enfant dans la foi de s'efforcer, de se présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. Après, il dit, comme Timothée était jeune, il dit à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Nous n'avons pas besoin d'être grands pour annoncer la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'être adultes pour annoncer la parole de Dieu. Dans notre enfance, dans notre adolescence, dans notre jeunesse, nous pouvons être porteurs de cette grâce à tout le monde. Timothée était jeune comme nous. Et il est indispensable d'annoncer la parole de Dieu. Le ministère de Paul était jonché d'embûches. Il en a donné les détails dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à verset 28, pour montrer combien de fois il était roué de coups, combien de fois il était en danger, combien de fois il était en péril. Mais ça n'avait pas stoppé son travail pour l'épanouissement de l'Évangile. Ça ne l'avait pas découragé. et sans tenir compte des faux frères de l'Église qui le persécutaient aussi. Il ne faut pas ignorer que dans l'Église, il y a des persécuteurs et des persécutions. Depuis toujours. Et ce n'est pas seulement ici, dans toutes les églises locales, il y a toujours des perturbateurs, des persécutions. Paul en était victime, des frères de l'Église. Mais le travail de Paul était couronné de succès. Oui. Il est l'auteur de 13 épîtres dans le Nouveau Testament. 13 épîtres, 13 lettres. Et la majorité de ces lettres étaient écrites quand il était en prison, dans la persécution. Je ne cesse de vous dire que ce n'est pas les prisons de luxe qu'il y a aujourd'hui. Il y a télé, il y a douche, il y a tout, mais il était dans les fers. Et il a écrit à l'église de Philippe, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Et je le répète, « Réjouissez-vous. » Dans nos souffrances, est-ce que nous sommes dans la joie? Quand nous persécutons l'église, les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu, c'est Jésus-même qui supporte les coups. Parler mal contre l'Église, c'est médire contre Jésus. Parler mal contre un frère, parler mal contre une sœur, c'est de Jésus que nous parlons. Parce que l'Église est la propriété de Dieu. De persécuteur, Paul devient un fondateur de l'Église. Rien n'est fait au hasard dans l'Église de Jésus-Christ. Parce que l'Église est dirigée par le Saint-Esprit. Rien. Rien ne fait à l'Église sans que Dieu ne donne sa permission. Et nous ne pouvons rien faire sans lui. Même ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde nous rentrisse pour nous demander où est Dieu dans tout ça. Lorsque nous voyons, lorsque nous entendons, lorsque nous constatons ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde. Moi, je suis haïtien. Ce qui se passe aujourd'hui chez moi, c'est difficile. Et rien n'a changé. Où est Dieu dans tout ça? Ses serviteurs sont morts. Ses servantes sont kidnappées. Où est Dieu dans tout ça? Si nous n'avons pas la foi, le courage de servir Dieu, on peut dire, bon, on abandonne ce Dieu pour trouver un autre consolateur. Mais qui est cet autre consolateur qui puisse nous donner tout ce dont nous avons besoin? Personne. L'esprit que nous avons, c'est lui seul qui peut nous consoler. Personne d'autre. L'Éternel dit à Moïse dans Exode chapitre 3, verset 6 et verset 7, « J'ai entendu la souffrance de mon peuple et je vois ce qu'il a subi sous les mains des oppresseurs et je suis descendu pour les délivrer. » Est-ce que nous croyons à ça? Il n'y a pas de délivrance sans Dieu. Il n'y a pas de soulagement sans Dieu. Il n'y a pas d'issue salutaire sans Dieu. Et voilà pourquoi nous devons mettre tout devant lui pour que nous ayons ce salut, cette délivrance. Ne marchez pas à tort et à travers pour trouver des prières de délivrance, des prières de miracles. Non, nous avons le Dieu qui opère les miracles, nous avons le Dieu qui délivre, nous avons le Dieu qui console. Pourquoi cherchez-nous ailleurs ce que nous avons ici et ce que nous avons en nous? C'est le Dieu de délivrance qui nous permet d'être là ce matin. Il n'y a pas d'autre. Les hommes ne veulent pas Dieu, c'est tout. Paul a contribué que tout autre missionnaire, mes frères et sœurs, a donné le christianisme au monde entier. Paul n'avait pas peur des souffrances pour prêcher l'évangile. Paul n'avait peur de personne dans son audace pour prêcher l'évangile. Agrippa disait à Paul, après sa prédication, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Et Festus, à haute voix, lui dit, tu es fou, Paul. Ton grand savoir te rend déraisonné. Nos amis peuvent le dire pour nous aussi, mes frères et sœurs, nos amis. J'avais un responsable dans mon travail. Il me disait une fois, quand il m'a donné quelque chose à faire, je le faisais, mais pas dans la façon dont il m'avait demandé. Je lui dis, si on faisait ça de cette façon, ce serait mieux. Mais il ne veut pas m'entendre. Et il m'a dit, Jean-Pierre, ta religion te rend bête. Mais je lui ai répondu d'une manière d'autre. Je lui ai dit, bien sûr, mais je ne suis pas bête pour les moins bêtes. C'était une réponse dure, mais je l'ai dit. Parce que Dieu était avec moi. Je ne suis pas bête pour les moins bêtes. Parce que ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie, ils sont plus bêtes que nous. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Nous ne pouvons pas être des bêtes. Mais nous pouvons accepter que nous soyons bêtes pour la gloire de Dieu. Dieu, il prend plaisir quand nous souffrons pour lui. Et Paul, le Seigneur lui dit qu'il n'est pas seul. Et puisqu'il n'est pas seul, Dieu a fait provision pour lui. Dans Actes chapitre 26, versets 17 et 18, le Seigneur dit à Paul, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage des sanctifié. Paul était un instrument choisi par Dieu. Il était élevé au pied de Gamaliel, un docteur de la loi. C'est lui qui avait conseillé au juge de Sanhédrin de ne rien faire à ces hommes qui proclament l'évangile. Dans Actes chapitre 5, versets 38 et 39, Gamaliel dit, Si ce que ces hommes sont en train de faire était Dieu, vous pouvez faire quelque chose. Mais puisque cette œuvre ne sont pas Dieu, vous ne pouvez rien faire contre ce qu'ils font. Actes chapitre 5, versets 38 et 39. On peut faire tout. On peut dire tout, mais quant à la prédication de l'Évangile, quant à l'œuvre de Dieu, personne ne peut se mettre contre. Parce que Dieu a tout fait pour sa gloire. L'Église a besoin des hommes transformés comme Paul pour son épanouissement. L'Église a besoin des prédicateurs enthousiasmés comme Paul pour sa croissance numérique et spirituelle. L'Église a besoin de serviteurs dévoués comme Paul pour son bon fonctionnement. Ce que nous étions hier est une page tournée. Animons et démontrons ce que nous sommes aujourd'hui et nous nous mettons au service de Dieu pour l'épanouissement de son évangile. Et que Dieu nous bénisse. Merci.